bien bonjour ou bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Et oui, le format, c'est 19h30, 21h maintenant le mercredi. T'es habitué à arriver à 18h, donc je disais bonjour. Et bien maintenant, il me faut m'y faire, il faut que je dise bonsoir. Alors bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la Résistance française. Bien ancien libre journal, c'était il y a bien longtemps le libre journal de Serge de Bekech, un grand, un très grand, un des fondateurs de Radio Courtoisie. Et j'ai la chance une semaine sur deux d'animer entre 19h30 et 21h eh bien ce libre journal. J'ai comme l'impression d'avoir presque un morceau de la vraie croix, si j'ose dire. Voilà, donc nous devons faire honneur à ces émissions, y être en direct, répondre aux questions des auditeurs, en espérant évidemment qu'il y en ait. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à poser vos questions, faire vos remarques, vos observations, et évidemment, eh bien, me transmettra l'ensemble de des questions et remarques que vous aurez bien voulu nous faire. Aline que je remercie au passage, comme il est d'usage et de coutume, nous remercions bien sûr toujours les techniciens, techniciennes qui contribuent grandement aussi, comme les bénévoles lorsque nous avons la chance d'en avoir au standard pour consacrer beaucoup de leur énergie, de leur temps à la réalisation de ces émissions. Donc je remercie Aline pour cette réalisation. Voilà. Pour le standard, je crains que nous n'ayons personne, contrairement à tous les samedis matins. Et écoutez, on va faire sans, comme je ferai sans assistante ce soir. C'est peut-être une des dernières fois, car je pense que je vais revenir sur des formats plus larges à partir de dans deux semaines pour le prochain libre journal de la Résistance française, qui sera toujours en direct. Avec des plateaux qu'on va réélargir. Mais ce soir, j'ai voulu conserver le format de l'échange, de la conversation avec mon invité principal de cette émission, qui a commis un livre sorti il y a peu, Apocalypse 2026, un livre de Régis Emmanuel Suire, que ceux qui ont écouté un florilège des arts il y a de cela à peu près trois semaines ont pu faire connaissance. Et sinon, eh bien, c'est l'occasion, chers auditeurs, de faire connaissance avec Régis Emmanuel Suire. Bonjour Régis, bienvenue dans ce libre journal.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Bien, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, vous êtes dans le studio. Vous avez votre casque.
Je suis confortable.
Vous avez vu qu'il y a le cochonnet qui est juste en face de vous. Méfiez-vous-en de ce cochon.
Ah, il était caché par le micro.
C'est une tirelire. Vous savez à quoi il sert ?
Pas du tout.
Au moins. Ah, vous ne savez pas à quoi il sert. Je vous croyais plus habitué que cela.
Il y a un maillet pour la casser.
Alors, en fait, c'est vous qui allez casser votre tirelire si vous usez de franglais. Pas d'anglais, parce que l'anglais, peut-être, à certains moments, on n'a pas le choix. Si le mot est anglais, on peut éventuellement le traduire aussi, mais on peut le prononcer. L'horreur, c'est le franglais. C'est ce mot parasite, ce mot valise, ce mot que l'on va employer. Alors qu'on pourrait parfaitement employer un terme français, puisque, on le rappelle, Radio Courtoisie, RC, c'est la radio du pays réel et de la francophonie. Et oui, Régis, de la francophonie. Donc, il est d'usage que le patron d'émission désigne d'un doigt vengeur le cochonnet qui est en face de vous si vous commettez un de ces impairs d'user de franglais, hein, ce qui n'est pas acceptable et qui nécessite réparation. Et cette réparation, elle passe par ce cochonnet. Voilà. Ça, c'était pour les propos liminaires de ce livre journal de la Résistance française. Ce que je me propose de faire dans le thème de l'émission, hein, on le rappelle, on va le centrer principalement sur la question, en tout cas, et on pourra dériver à partir de là, de l'incendie de Notre-Dame. C'était il y a un peu plus de 7 ans maintenant. C'était en avril, au moment de la Semaine Sainte, 2019. Et donc, ça a eu lieu donc, il y a maintenant, c'était je crois le 15 avril pour être précis. 15 avril, et nous sommes le 22 avril, c'était il y a une semaine et j'avais voulu faire une émission, mais n'ayant pas ce libre journal la semaine dernière, il fallait attendre cette semaine sur justement l'enquête, où en était-elle, en cours, toujours en cours, au bout de 7 ans, et on ne sait toujours pas. On sait juste que c'est accidentel, mais on le savait d'entrée. Ça n'avait, les ruines étaient fumantes, on nous expliquait, ah, s'il y avait une chose dont on est certain, c'est que c'est accidentel. Comme c'est étonnant, comme c'est étrange, vous ne trouvez pas, chers auditeurs. Voilà, c'était accidentel, cette parole d'évangile. S'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas remettre en question, puisque c'est les autorités publiques qui l'ont dit, enfin, c'est la préfecture, c'est le ministère, c'est Macron, il le dit. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous êtes un dangereux complotiste. Théorie du complot, eh oui. Donc, pour éviter cette expression infamante de complotiste, vous avez intérêt à filer droit et dire « oui, alors, c'est accidentel, mais nous ne savons pas ». Et c'est vrai que mon cœur balance entre le mégot et l'incident électrique malheureux qui aurait pu déclencher cet incendie. Sauf que bah, vous n'avez pas le début de commencement d'un élément de preuve, voilà, que il y a des éléments troublants à foison. Pour ceux qui ont voulu faire une contre-enquête, les fameux complotistes, dont fait partie, bien sûr, mon invité ce soir. Et la contre-enquête, elle indique que bah, si on ne prend pas pour argent comptant, si on prend un incendie pour ce qu'il est, qu'on l'observe et qu'on fait sa contre-enquête, qu'on fait du recoupage. Alors évidemment, on n'est pas au cœur de cette enquête, on n'en est même pas partie civile, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir, d'avoir un peu de bon sens, c'est ce que je dis toujours, de couper, recouper les informations qui sont à notre disposition, qui paraissent parfois comme ça, qui sont négligées par les grands médias, médias de grand chemin, et puis qui nous, vont nous alerter, nous interroger et nous amener à émettre un certain nombre d'hypothèses que nous ferons justement ce soir sur cet incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, il y a 7 ans, et dont on nous disait encore, je prends appui sur un long article du Figaro d'il y a une semaine qui expliquait qu'on ne savait pas trop, qu'on n'avait toujours pas d'explication. On était juste sûr que ceux qui disaient que ce n'était pas un accident étaient de dangereux complotistes. Ça, c'est la seule certitude, semble-t-il, de l'ensemble de nos médias alignés, de nos médias larbins, de nos médias que je n'hésite pas à appeler pour ma part médias menteurs. Et c'est le moment d'insister sur Radio Courtoisie, radio à nul autre pareil, que l'on ne peut pas comparer à aucun organe de presse, de médias, radio, télé, car RC, Radio Courtoisie, est unique. Et il pourrait y avoir... Pour y travailler bénévolement depuis plus de 10 ans, je vous le dis, Radio Courtoisie est unique. Nous sommes des patrons d'émissions indépendants. Nous avons d'ailleurs, nous sommes pas soumis à une ligne éditoriale. Nous devons rester dans l'esprit de Radio Courtoisie, bien sûr. Si c'est pour faire de la chaîne d'info en continu ou des longues ondes de radio, je vois pas trop l'intérêt d'être sur Radio Courtoisie. Mais par contre, si vous avez cet esprit de liberté qui souffle, l'esprit de la radio libre qui est Radio Courtoisie, et l'esprit de responsabilité aussi, bien sûr, vous avez toute votre place dans cette radio que vous faites vivre, chers auditeurs, et que je vous encourage à continuer à faire vivre par vos dons en particulier. Alors, je vais vous lire, si vous le voulez bien, le quatrième de couverture du livre de Régis Emmanuel Suire, et puis commencer l'interrogatoire, en quelque sorte, parce qu'il connaît fort bien le sujet, de cet incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce qui l'en retourne de cet Apocalypse 2026 ? Livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon, sur Book Edition. Je suis désolé, mais je ne peux pas l'appeler ça autrement. Je ne mettrai pas un euro dans le cochonnet pour ça. Donc, Apocalypse 2026, Régis Emmanuel Suire. Le quatrième de couverture, 2017. Un jeune président séducteur venu de nulle part arrive au pouvoir en France. vous vous doutez bien de qui il s'agit, avec pour principal projet de liquider le pays et de faire advenir une Europe supranationale. 2019, notre civilisation, notre patrimoine le plus intime, est frappé au cœur avec l'incendie jamais expliqué à ce jour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 2020, au détour de la crise sanitaire, Emmanuel Macron annonce la venue de la bête de l'événement, Satan, dans l'eschatologie apocalyptique chrétienne. 2024, la France organise les Jeux Olympiques avec des cérémonies marquées à l'initiative du couple présidentiel par des relents sataniques et lucifériens indéniables. Alors, par un savant jeu de calcul et de nombres, l'auteur du présent ouvrage, Régis Emmanuel Suire, émet l'hypothèse d'une bombe atomique qui pourrait frapper Paris. À tous les niveaux du réel revient, selon l'auteur, l'étrange nombre 666, le chiffre et la marque du diable. Ah, et ben dites donc, hein, on n'est pas sorti de l'auberge avec un pareil quatrième de couverture. On va se concentrer, quitte à développer ensuite le reste, quelques éléments de ce livre sans le divulgâcher, hein, voilà, et non spoiler, mais divulgâcher, comme le dit François Asselineau, l'ensemble de cet ouvrage, mais néanmoins vous en dire suffisamment pour vous donner envie de le lire. Donc 2019, mon cher Régis, notre civilisation, notre patrimoine le plus intime, est frappé au cœur avec l'incendie jamais expliqué à ce jour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'avais presque envie de vous poser une première question. On se souvient tous, par exemple, ce que l'on faisait le fameux 11 septembre. C'est d'ailleurs une tarte à la crème dans les dîners en ville de dire « Ah, moi, le 11 septembre 2001, j'étais ici ou là et je m'en souviendrai toute ma vie. » Et comme nombre de médias qui ont ensuite, parce qu'évidemment il s'agissait d'un attentat terroriste et que là il s'agit d'un accident, ont commencé à dire « mais c'est notre 11 septembre, Notre-Dame de Paris en feu, c'est notre 11 septembre ». Donc j'ai envie de vous poser la première question de cet entretien, mon cher Régis. Justement, où étiez-vous, vous, est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez lorsque vous avez appris cet incendie le 15 avril 2019 ?
J'étais chez un ami et la télé était dans le salon avec donc elle était sur silencieux et je vois donc les images de l'incendie de Notre-Dame. Donc j'étais pas du tout sur Paris, j'étais à Rosny-sous-Bois et immédiatement le premier instinct, le premier réflexe, ça a été de me dire ils ont fait ils ont détruit, ils ont brûlé Notre-Dame. Et il a fallu que je me rende sur place, c'est-à-dire à peu près dans la demi-heure qui a suivi, il m'était quasiment impossible de rester à Rosny-sous-Bois. Donc je me suis excusé, je suis parti, j'ai pris les transports en commun et je suis arrivé ensuite assez tardivement sur le site qui fumait encore, qui brûlait encore, les pompiers étaient à l'œuvre et je suis resté toute la soirée avec un groupe sur la place Saint-Michel de spectateurs en prière. Et j'ai été assez marqué par les chants de la Vierge Marie, tous les chants que tous les croyants, pour le coup, disaient en regardant Notre-Dame brûler. Et on sentait vraiment une ferveur et beaucoup de prières pour que la cathédrale ne s'effondre pas.
Alors Régis, tout de suite, un point d'interrogation sur ce « ils » qui est un pluriel. Ils ont détruit Notre-Dame. C'est la première intuition qui est la vôtre. Mais qui donc serait ce « ils » et quelle enquête avez-vous menée pour éventuellement approcher ce « ils » ?
Alors, je n'ai pas forcément un coupable en tête au moment où je vois l'incendie. C'est juste l'ampleur, en fait, l'improbabilité finalement de cet événement qui me fait penser, et également par rapport au calendrier, le fait qu'on rentrait dans la Semaine Sainte, il y avait une espèce de, comment dire, une sorte d'évidence larvée, mais que je n'avais pas encore identifiée. Et un an plus tard, au moment du Covid, là où je me suis souvenu de l'incendie Notre-Dame, là où je m'étais dit, je pense que ça vient d'assez haut, mais je ne sais pas de qui. Au moment du Covid, quand le président Emmanuel Macron nous a dit 6 fois « nous sommes en guerre », et encore plus le mois qui a suivi en avril 2020 quand il a dit « la bête de l'événement est là », je me suis rappelé l'incendie de Notre-Dame et j'ai commencé à chercher, à comprendre et à revenir un an en arrière pour revoir les vidéos de l'époque, ce qui se disait. Et c'est là où véritablement une enquête contre mon gré a démarré. Je dis contre mon gré parce que c'est quand même pas normal que ce soit des spectateurs, finalement, des citoyens lambda qui soient obligés de chercher des réponses là où il n'y a pas de sens. Et je suis désolé, mais quand on regarde avec le recul les vidéos de tout ce qu'on nous a donné à voir sur l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019 et les jours suivants, chose que je n'avais pas forcément faite parce que je n'avais pas de télévision chez moi à l'époque, donc j'étais pas abreuvé d'images et de récits sensationnalistes pour expliquer pourquoi c'était accidentel. Et un an plus tard, l'évidence de l'aspect criminel de cet incendie m'a paru évident. Et donc il a fallu pour cela que je creuse le sujet pour revoir un peu point par point pourquoi toutes les hypothèses avancées par les médias officiels s'avéraient complètement absurdes et inexactes.
Oui, on va suivre peut-être la contre-enquête ou l'enquête que vous avez pu mener en tant que simple citoyen, Régis Emmanuel Suire, auteur donc de ce livre Apocalypse 2026, que vous pouvez trouver bien sûr Amazon, Apocalypse 2026, Régis Emmanuel Suire, dont j'ai l'honneur d'avoir préfacé l'ouvrage. Qu'est-ce qui, quand vous, déjà peut-être, quand vous arrivez sur place, ce sentiment, cette force qui vous pousse à aller sur le lieu de l'incendie? Petite confidence, j'ai le même témoignage. Il a fallu aussi que je m'y rende, vous voyez. Est-ce que vous constatez à ce moment-là, quelque chose qui vous met sur la piste toujours d'un incendie qui ne serait pas, contrairement à ce que prétendent tout de suite pratiquement les médias, une cause accidentelle.
C'est vraiment instinctif. Sur le moment, c'est réellement instinctif. Puisque les images, elles étaient silencieuses là où j'étais chez mon invité. Chez l'invité, il n'y avait pas le son, donc il n'y avait pas d'explication. Et ensuite, sur place, on ne pouvait pas du tout approcher du site. Donc c'était compliqué d'avoir également les informations. Et dans les jours qui ont suivi, donc on a bien compris que dans les ruines fumantes de Notre-Dame, l'aspect accidentel était complètement privilégié. Mais la petite voix à l'intérieur de moi-même résonnait, ça sonnait faux par rapport à ce récit. Mais sur le moment venu, le soir même, j'ai juste contemplé Notre-Dame, en fait. Et puis, comme tout le monde, on espérait qu'elle ne s'écroule pas.
Alors, Régis, quand sont venus les premiers indices et quels ont-ils été qui vous ont conduit à dire qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident, ou en tout cas que l'hypothèse de l'accident n'était pas la principale hypothèse à retenir?
Un an plus tard, réellement, avec le Covid, j'ai eu les éléments concrets. C'est-à-dire,
Pas
comme...
avant, il vous a fallu à peu près, c'est au bout d'un an que un second déclic a eu lieu, c'est ça?
Le déclic a eu lieu le 16 mars 2020, quand le président nous a dit 6 fois, nous sommes en guerre. Il y avait un code dans cette façon de nous interpeller, de
Donc c'est
faire ce
pour le
message à
Covid
la
là, hein,
nation.
pour le coup.
Et c'est pour le Covid. Et n'ayant pas comme déjà dit, j'ai pas la télévision, donc le Covid était un petit peu mystérieux pour moi. J'en entendais parler, je travaillais en entreprise, j'en entendais parler par les salariés. Et il y avait eu le mot, évidemment, qu'il fallait se confiner pour le mardi 16 mars. Donc là, j'ai quand même allumé la radio pour savoir de quoi il en retournait et écouter l'allocution du président. Et lors de son allocution, mon détecteur à mensonges a pulvérisé les records. Et dès le lendemain, j'informais mes amis qu'on était probablement dans une sorte de mensonge généralisé, et j'ai commencé à chercher les éléments montrant que le Covid ne pouvait pas, n'était pas, ne se passait pas comme on nous l'expliquait. Et ensuite, ça a pointé assez rapidement donc autour du président sur l'aspect religieux. Quand il a parlé de la bête de l'événement et ensuite un petit peu plus tard dans l'année, quand de confinement en confinement, parce que j'avais anticipé tous ces confinements, je me souviens, mes amis disaient en avril 2020, mais c'est juste une histoire de 15 jours, et après, ça sera fini, on passera à autre chose. Et d'emblée, je les ai alertés, je leur ai dit non, non, il y a un projet derrière, il y a un projet, les confinements, on va en avoir plein, il va y en avoir un deuxième à l'automne, il y en aura ensuite un autre au printemps 2021, on ne va pas s'en sortir, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais à ce moment-là, il m'est apparu précisément que c'était des élites dirigeantes, puisque tous les États de la nation s'étaient alignés pour former le même narratif qui ne tenait pas la route. Et donc, ça m'a renvoyé à l'incendie de Notre-Dame un an auparavant. Et donc, c'est à partir de là que j'ai cherché finalement des signes pour comprendre et pour savoir la vérité. Ça me met également en colère parce que normalement, on n'a pas à faire ce travail-là. C'est le travail des journalistes. C'est eux qui sont censés nous dire la vérité. Donc, voir le mensonge affiché des journalistes du matin au soir, qu'ils sont incapables de donner une information juste. Et qu'il nous faille aller vérifier et perdre notre temps pour aller vérifier l'information, c'est quelque chose qui me met vraiment en colère, parce qu'il n'y a absolument aucun plaisir à faire ce travail dit de théoricien du complot. Et donc, une fois qu'on s'est résolu à aller enquêter par soi-même, ben, on constate finalement l'impensable. Et l'impensable, c'est l'aspect religieux derrière nos chefs d'État que je ne soupçonnais pas à ce point. C'est-à-dire, on pouvait imaginer qu'on avait des déviances. On sait très bien dans les loges maçonniques qu'il y a des rituels, il y a des choses qui s'apparentent un peu alors, parler de dérive sectaire, c'est peut-être un terme un peu trop fort, mais en tout cas, n'en faisant pas partie, on se dit quand même il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses secrètes, et peut-être, parce que si c'était révélé, ça ne plairait pas au grand public. Mais là, constater par l'incendie de Notre-Dame que nous sommes face à des élites déviantes qui nous affichent finalement des signes qui sont clairement d'ordre, moi je qualifie sataniste, et c'est ce qui nous est donné à voir, et c'est ce que l'on a vu, c'est ce que j'ai vu dans l'incendie de Notre-Dame une fois que j'avais collecté les éléments pendant la période du Covid. Là, ça m'a mis véritablement en colère. Et c'est
Et
là.
comment vous avez fait le rapprochement en tant que tel entre la période Covid et cet incendie, deux événements, la crise sanitaire et l'incendie de Notre-Dame, a priori totalement fortuit?
C'est la faute au président de la République. C'est lui qui a mis une telle assistance sur Notre-Dame dès le soir de l'incendie. Et le 15 avril 2020, il a fait exactement la même chose, une insistance sur Notre-Dame. Un an après, il a fait tout un discours. Alors on se souvient, il y avait un débat sur les gilets jaunes qui était prévu le 15 avril 2019. C'est peut-être aussi ce qui intuitivement nous a tous mis, alors pas que moi, mais beaucoup de monde, une petite puce à l'oreille, comme quoi que c'était finalement assez commode pour Emmanuel Macron de se passer d'aller affronter en débat public les gilets jaunes. Après, c'est un maigre motif pour mettre le feu à la cathédrale, ça je l'admets, mais néanmoins, dans notre instinct, beaucoup avaient pensé, bon, mais que finalement c'était assez salutaire pour le président. Mais c'est réellement quand il a annoncé la bête de l'événement que le lendemain, le journal Le Monde a titré, en fait, ils essayaient de nier le fait que Emmanuel Macron avait parlé de la bête de l'événement, et le journal Le Monde avait titré, a-t-il parlé de la bête de l'apocalypse? Et la bête de l'apocalypse, quand on connaît le livre, le chapitre de l'Apocalypse, on se souvient du fameux chiffre 666. Et c'est à partir de là que j'ai constaté une occurrence du chiffre 666 autour du président. Et démarrant dès le soir de son élection, on se souvient
Donc le
de
chiffre de la bête
le chiffre
dans
de la bête.
l'Apocalypse selon saint Jean.
Exactement. La marque de la bête sans laquelle on ne peut ni acheter ni vendre. Et j'étais sensibilisé sur ce chiffre depuis les années 90, fin des années 80 et au milieu des années 90, parce qu'il y avait effectivement, avec l'apparition du code barre, j'avais essayé de regarder s'il pouvait y avoir un lien entre toute cette ère numérique qui se mettait en place et le fameux chiffre de la bête sans lequel nous ne pourrions ni acheter ni vendre. Et ce chiffre 666, coup, ben je l'ai recherché, je l'ai trouvé. Et dès le soir de l'élection, avec l'élection donc de Emmanuel Macron, qui a été élu avec 66,06% des voix, arrondi plus tard à 66,1% des voix, histoire de l'arrondi, disons, à masquer le fameux chiffre de la bête qui était visible. Parce que si on enlève la virgule et le zéro, il n'y a pas de valeur numérique. Donc on a le chiffre 666. Et Christine Boutin s'en était émue. Elle avait dit, elle était surprise, parce qu'elle connaît les textes, elle était surprise de voir le chiffre de la bête dans le score de l'élection d'Emmanuel Macron au deuxième tour. Et ensuite, en regardant donc, d'un petit peu plus près les discours d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui mettait une telle insistance sur Notre-Dame que j'ai regardé, et je suis tombé sur d'autres occurrences du 666, notamment quand il est à l'été 2020 au fort de Brégançon, sur un scooter des maires. Donc là, on est sur, on va dire, c'est l'équipe dédiée qui alimente la presse pour Emmanuel Macron. C'est eux qui prennent les photos, qu'on est en plein milieu de l'océan, et c'est vraiment une photo officielle. Ce n'est pas un paparazzi. Mmh. Et cette photo officielle donc, est distribuée à tous les médias, et on le voit sur un scooter des maires, dont la fin du numéro d'immatriculation est le numéro 666. Et cette image a été très diffusée à la télévision. Donc là, on a des extraits toujours visibles sur YouTube, et je mets le lien dans le livre, où on voit dans l'émission de Cyril Hanouna tous ces chroniqueurs qui discutent du bien fondé ou pas, en pleine période de pandémie, d'un président d'aller s'amuser au fort de Brégançon. Et on a derrière l'animateur, sur fond d'écran, le fameux 666 qui apparaît derrière le visage de l'animateur. Le 666 sur le scooter des maires d'Emmanuel Macron.
C'est pas le moment où on voit quand même Brigitte en maillot une pièce, là, qui a défrayé ensuite la chronique.
Je crois que c'était avant. Brigitte en maillot une pièce, ça devait être avant. Mais j'avais pas de suspicion encore sur Brigitte Macron et le rôle éventuel de Brigitte Macron. Je me concentrais à ce moment-là sur le président lui-même.
Ça ne sera pas le thème principal de cette émission, je vous rassure, Régis. Je reviens, alors on se résume, donc incendie, et une petite voix intérieure qui vous dit ils ont détruit Notre-Dame de Paris. Macron, avec son discours en 2020 sur « Six fois nous sommes en guerre », puis la bête de l'événement, peut-être la bête de l'apocalypse, le chiffre 666 qui correspond au nombre, au chiffre, à la marque, du diable dans cet apocalypse selon Saint Jean. Et moi, ce que j'aimerais, avant de pousser plus loin votre raisonnement, c'est de revenir sur Notre-Dame. Quels sont les grands éléments de votre contre-enquête qui vous font dire que Notre-Dame de Paris n'a pas brûlé justement accidentellement, et peut-être revenir déjà d'entrée sur un élément qui a été assez peu développé dans les médias. Il y a le colonel Logette qui, dernièrement, en a fait une très courte référence. C'est ce fameux Centre des Monuments Nationaux, CMN, qui se réunit ce jour-là dans une des tours de Notre-Dame, ces tours qui donnent accès justement à la charpente de Notre-Dame par lequel le feu a pris. Et vous vous étonnez justement de cette réunion et du peu de cas qu'en ont fait et les médias et ensuite les enquêteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela et ensuite peut-être d'autres indices que vous avez trouvés dans ce dossier qui vous ont fait et qui vous ont confirmé dans cette idée que ce n'était pas un incendie accidentel?
Alors effectivement, il s'est tenu une réunion à 17h30 dans la tour haute de Notre-Dame, celle dévolue à l'accueil des publics, donc le 15 avril 2019, une réunion des membres du Centre des Monuments Nationaux. C'était une réunion qui était prévue 15 jours à l'avance, et le public avait été averti que les visites des tours fermeraient, seraient impossibles, passé 17h30, il fallait que tout le monde soit évacué à 17h30 pour permettre la tenue de cette réunion. Normalement, les tours se visitent jusqu'à 18h30. Or, l'incendie on ne sait pas exactement à quel moment il a démarré, mais l'alarme incendie s'est déclenchée à 18h18 précisément, donc pendant le créneau horaire de cette réunion. Et ce qui interpelle, c'est qu'effectivement, personne n'en a parlé. On est quand même face à un événement d'une ampleur inédite. Le précédent qui vient à l'esprit, on peut parler du 11 septembre 2001. Et là, on a comme un 11 septembre à la française. Donc normalement, les médias sont avides du moindre de témoignage sensationnaliste. Et là, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont au niveau du toit pendant que, que le feu est déjà réel, parce que l'alarme incendie s'est déclenchée pendant cette réunion. Et on ne personne n'en parle, on ne les entend pas, on ne les voit pas, on n'a pas de journaliste qui les interroge en leur demandant simplement « Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous sentiez quelque chose? Vous étiez exceptionnellement en réunion ce soir-là, tout proche de l'incendie, dans une tour avec une salle qui donne accès à la charpente. » Rien du tout. Les médias n'en ont pas parlé. Et ce qui interpelle, c'est que, là encore, donc c'était le silence complet, et c'est un internaute qui a posé la question, car lui, il était informé que les tours avaient fermé une heure plus tôt que la normale, le soir de l'incendie. Et sa question était simplement de savoir pourquoi le public avait été évacué une heure plus tôt que la normale. Et c'est Libération qui a fait une page à la va-vite Check News, où ils ont réussi à obtenir de façon très réactive des réponses. Donc ils ont contacté la fondation qui est en charge de la cathédrale, qui les a renvoyés sur le centre des monuments nationaux, qui est rattaché au ministère de la Culture. Et donc Libération a dégainé à la va-vite une page Check News expliquant pourquoi les tours de Notre-Dame avaient fermé une heure plus tôt que la normale. Et leur réponse est de dire que c'était pour permettre la tenue d'une réunion des membres du Centre des Monuments Nationaux qui était prévue depuis 15 jours et que cette réunion n'avait rien d'exceptionnel car ils ont l'habitude de temps en temps de se réunir et que de toute façon ils n'ont rien à voir avec l'incendie puisque leur réunion était déjà finie au moment où le feu s'est déclaré. Circuler, il n'y a rien à voir.
Voilà, ça, c'est pour le Centre national des monuments nationaux, pardon, le Centre des monuments nationaux. Une réunion qui est de très courte durée, c'est pour le moins surprenant aussi. C'est-à-dire, on prévoit la réunion avec 15 jours d'avance, c'est une réunion qui va durer, 45 minutes maximum. Et hop, tout le monde s'en va et personne n'a rien vu. C'est fou, ça.
Bah, disons qu'il y a quand même un préjudice pour le public. Le public qui peut visiter les tours jusqu'à 18h30. Et puis, à ce que je sache, les tours, les visites, c'est payant. Donc là, on a quand même une décision qui est prise de se passer des recettes des visites, car cette réunion est suffisamment importante pour justifier d'évacuer le public et de le frustrer. Donc je pense que cette réunion devait être vraiment décisive pour que les personnes se rendent sur place. Donc si cette réunion est décisive, ben, je pense quand même qu'il doit y avoir les principaux intéressés qui se souviennent de l'ordre du jour. On est quand même face à des personnes qui, normalement, sont rattachées au ministère de la Culture. Donc j'ose imaginer que si une réunion est prévue 15 jours à l'avance, il y a des convocations par email. Donc ça veut dire qu'on a toute la liste des différents intervenants. Et donc, pourquoi pas également donc, l'ordre du jour en question, et mettre ça en balance avec l'ampleur des débats. Parce que s'il s'agit d'une réunion qui dure 20 minutes, est-ce qu'il y avait vraiment, voilà, par rapport à l'ordre du jour, est-ce qu'on peut peser, est-ce qu'on peut mesurer la crédibilité de cette réunion et de son aspect très court face à l'ampleur des échanges? Et donc, on a aussi, dans les emails, la possibilité de voir si des invités étaient mentionnés. Normalement, dans une réunion, on peut inviter des intervenants. Bon, mais normalement, tout est tracé et on doit pouvoir avoir des éléments écrits. Est-ce qu'il y a un compte-rendu? S'il s'agissait d'une réunion décisive, parce qu'on peut très bien avoir une réunion décisive assez courte, si les décisions sont vraiment significatives, normalement, ça doit être consigné quelque part, le résultat, le compte-rendu, qu'a-t-il été décidé? Donc, s'il y a réellement une enquête, et maintenant j'en doute, 7 ans après, je commence sérieusement
7 ans d'enquête.
À me dire que doit plus y avoir grand monde qui enquête, mais si l'enquête normalement était faite avec sérieux, on devrait avoir des éléments qui pointent sur ces membres du Centre des Monuments Nationaux. Ils devraient figurer dans le dossier d'enquête. Alors, si le dossier d'enquête n'est pas classé secret défense, comme il avait été suggéré à un moment donné, mais ce qui était une fausse information, donc oui. Pour la transparence, nous réclamons avoir des éléments sur cette réunion. Et je pense que le public a le droit de savoir qui sont ces membres qui se sont réunis et de connaître l'ordre du jour, les échanges, d'avoir des éléments d'information et de le mettre ensuite en balance avec la crédibilité de ce qu'avance Libération dans sa page Check News. Surtout que dans sa page Check News, Libération, il ne faudra pas m'accuser de faire un anglicisme. Check News, c'est...
Non, allez-y, ça ira.
Et dans cette page, ils disent que la réunion était finie au moment que le feu s'est déclaré. Et même s'il n'y a pas de caméra, peut-être à certains endroits de la cathédrale, on doit quand même, dans un lieu sécurisé, comme autour de la cathédrale et dans simplement les rues, on doit pouvoir voir les allées et venues des uns et des autres, et donc voir à l'image ces membres du Centre des Monuments Nationaux. Parce que si on voit qu'ils sont sortis à 18h05, c'est pas la même chose que s'ils sont sortis à 18h35, par exemple.
Alors, de toute façon, il n'y a pas d'enquête, ou en tout cas une enquête qui est bâclée d'entrée. Ça fait 7 ans que ça dure, 7 ans qu'on nous amuse. Peut-être dire un mot, Régis, des différentes hypothèses qui ont été avancées de façon assez fantaisiste par les médias comme par les enquêteurs, à savoir les différentes options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'il s'agit d'un mégot mal éteint, d'un court-circuit électrique, de l'hypothèse d'un outil générateur de flammes, d'une électrification des cloches de la flèche? Ça fait partie des hypothèses, la plus fantaisiste et la plus drôlatique étant probablement celle du mégot. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on ne peut pas retenir ces hypothèses selon vous ?
Je renvoie à l'intervention de Benjamin Mouton, le précédent architecte en chef de Notre-Dame, qui était présent sur le plateau, c'était de mémoire avec David Poujadas, et il était complètement choqué et il exprimait sa surprise.
C'était le jour même, le 15 avril même.
Exactement, c'était le jour même, c'était le soir de l'incendie. Donc là, ce sont des vidéos, là encore... que j'ai pu regarder donc sur le tard, mais qui sont toujours disponibles sur YouTube. Et là, on voit la gêne de l'animateur.
Donc, c'est Mouton, c'est pas n'importe qui. C'est le grand architecte, si j'ose dire, l'ancien grand architecte de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet.
Et il a tout dit ce soir-là. Il a dit du chêne vieux de 800 ans ne brûle pas comme ça. Là, ça ne brûle pas comme des allumettes. Et que le feu a été très vite, beaucoup trop vite. Il a passé en revue l'ensemble des éléments. Il a dit, il y a des normes considérables, car tout avait été refait dans les années 2010. Il dit, il n'y avait pas de... Alors, l'architecte qui était en charge des travaux au moment de l'incendie, donc le successeur de Benjamin Mouton, donc a mentionné que cet architecte avait confirmé qu'il n'y avait pas de travaux de soudure ou quoi que ce soit sur le toit, qu'un court-circuit était impossible car justement il s'était arrangé pour ne mettre aucun câblage électrique sous la charpente et tous les blocs électriques étaient dans les cages d'escalier en pierre derrière des portes coupe-feu. Le mégot, c'était pas possible non plus. Il a tout passé en revue, et ensuite, quand on regarde dans le détail les autres intervenants, on comprend en fait que le mégot, c'est tout simplement impossible parce que les ouvriers étaient en scaphandre, et pour fumer quand on est en scaphandre, c'est compliqué. Donc il fallait qu'ils soient complètement, qu'ils enlèvent tout leur attirail, leur accoutrement, qu'ils passent par la décontamination. Je pense que c'était le plomb, il y avait... un danger par rapport à cela. Et donc, il fallait qu'ils aillent en bas pour fumer. Et ensuite, il y avait un bloc électrogène, parce qu'on avait mentionné, donc il n'y avait pas de luminosité sous la charpente. Et l'inspection du travail avait exigé, pour la sécurité des ouvriers, à ce qu'il y ait un bloc électrogène pour mettre simplement de la luminosité et qu'ils puissent travailler dans les normes. Donc c'était un appareil qui avait été homologué. Donc très peu probable qu'il y ait un court-circuit sur cet appareil, ou alors il a été trafiqué, si on ne sait pas tout. Et on a comme ça donc toutes les hypothèses qui sont balayées, également les 12 ouvriers qui travaillaient sous la charpente ont tous été interrogés et ils ont tous été mis hors de cause concernant le fait qu'aucun ne travaillait avec des outils générateurs de flammes tels que chalumeaux. Donc si c'est pas le mégot, si c'est pas un outil oublié, si c'est pas un court-circuit. On a également évoqué, alors cette piste a été assez vite balayée concernant l'électrification des cloches, où on a le journal Le Canard Enchaîné qui a essayé de faire un sujet, on va dire un petit peu avec un parfum de scandale, en insinuant que l'incendie pouvait peut-être venir de cette électrification des cloches. Et dans le livre, je reprends le témoignage d'un internaute point par point qui connaît bien le sujet. Et alors, il est anonyme, donc je ne peux pas le remercier, mais il explique point par point pourquoi c'est tout simplement impossible. Et de toute façon, la faible intensité électrique impliquée ne permettait pas de déclencher une quelconque étincelle.
Donc autant d'éléments qui donc font dire que la plus forte probabilité qu'il a fallu aider au départ de feu et à l'incendie, d'où cette hypothèse. Mais là, on entre sur des hypothèses d'une. Alors, il y a une hypothèse en particulier qui dernièrement a été relancée, c'est-à-dire, je crois, hein, vous me coupez si je me trompe, en février à peu près de 2019, on a très étrangement décidé de désinsectiser les poutres de la forêt de Notre-Dame, 800 ans après. Ah, oh, mais oui! Et on a adressé cette demande à une entreprise qui était spécialiste de la mérule, pas des insectes, hein, c'est des champignons. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mérule sur ces poutres. Mais c'est à eux qu'a été passé le marché, le contrat. D'ailleurs, ils n'avaient absolument pas les substances nécessaires pour pratiquer cette désinsectisation. Donc, on leur a communiqué, on leur a donné, pas communiqué, on leur a fourni ces bonbonnes d'insecticides, semble-t-il, qui ont été pulvérisées à peu près 2 mois avant l'incendie. Or, eh bien, une des hypothèses, dangereusement complotiste, j'en conviens, serait qu'en réalité, on les aurait bernés, hein, peut-être des services, ou en tout cas une puissante main invisible, un peu comme les beepers, vous savez, la fameuse opération des beepers contre le Hezbollah, où en Europe de l'Est, ces beepers ont été fabriqués et où on aurait ajouté, ou les services du Mossad auraient ajouté à ce moment-là un petit explosif qui aurait donc fait réussir cette opération. C'est dire, donc, on livre finalement un matériel qui est piégé. Alors, est-ce que ces bonbonnes. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le Mossad qui a fait brûler Notre-Dame tout de suite, le raccourci, mon Dieu. Je me méfie des mauvais esprits sur ce sujet. Je dis seulement que, en tous les cas, on pourrait imaginer que, eh bien, on ait berné cette entreprise qui a pulvérisé autre chose, peut-être un accélérateur de feu, peut-être de la thermite, c'est le terme, hein, qui c'est la substance qui est soupçonnée parce qu'elle donne des flammes oranges, et on a été très surpris de la couleur des flammes qui s'échappaient de Notre-Dame en feu. Et donc c'est une hypothèse, c'est bien ça, mon cher Régis, qui est retenue par certains qui disent, eh bien, il y a bien une opération derrière de destruction de Notre-Dame de Paris.
Benjamin Mouton a évoqué la rapidité improbable avec laquelle le feu s'est déployé dès le soir de l'incendie, mais on ne l'a plus jamais revu. Plus jamais il n'a été réinvité sur un quelconque plateau, et y compris au moment de la réouverture, on aurait pu avoir les journalistes avides de savoir ce qu'ils pensaient de la reconstruction, est-ce qu'il était heureux de revoir Notre-Dame réouverte. Rien du tout. Je ne sais même pas
il
si
s'est
ce monsieur...
relativisé.
Je ne sais même pas si ce monsieur est encore en vie.
En tout cas, il semblerait qu'on l'ait envoyé faire de longues vacances après ce 15 avril. Il est parti plusieurs mois à l'étranger et plus personne n'a entendu parler du malheureux architecte Benjamin Mouton.
En tout cas, il était tout à fait disponible pour venir en parler le soir de l'incendie. Donc, est-ce qu'on lui a donné des arguments qui ont fait qu'il maintenant il est quasiment obligé de rester silencieux et invisible, je ne sais pas. En tout cas, la termite, effectivement, est un accélérateur de feu. Donc là encore, il y a une question cruciale si on doit remonter les responsabilités des uns et des autres. La première des responsabilités, c'est qui a décidé de la désinsectisation de Notre-Dame? Alors que pendant 800 ans, il n'en a jamais eu besoin. Surtout
Ouais.
si le chêne est devenu quasiment dur comme du silex. Je ne sais pas si des petites bestioles, des petits insectes auraient pu se développer. Donc, qui a pris la décision de traiter les poutres? Parce
Exact.
qu'il faudrait peut-être démarrer par là pour essayer de comprendre la logique. Qu'est-ce qui a poussé à cette décision? Et après, on remonte le fil. Donc l'entreprise, je comprends qu'elle n'était pas en capacité elle-même de fournir le produit, donc ils sont passés par des intermédiaires, des prestataires de services. Alors c'est pratique, hein, plus on augmente le nombre d'intermédiaires et d'intervenants, et plus ça devient compliqué à tracer. Malgré tout, sur un chantier aussi énorme que celui de Notre-Dame, il existe forcément des traces écrites. Donc là encore, si une enquête existe, et là encore j'en doute très fortement à ce stade, on devrait avoir des éléments de réponse. Qui a décidé de traiter les poutres avec un produit pour désinsectiser la charpente? Et
Tout à fait.
ensuite, avoir les noms de l'entreprise, donc on l'a, mais le nom du prestataire, et retracer l'origine du produit, retracer. Normalement, tout est traçable. Qui étaient les intervenants, qui ont livré, on devrait avoir les noms des différentes personnes. Donc est-ce que ces personnes ont été interrogées, oui ou non? Comme l'enquête ne nous le dit pas, en tout cas, s'il y a des éléments de réponse, soit ça n'a pas abouti, parce que personne n'a été mis en examen, à ce que je sache, et en tout cas, le public n'est absolument pas informé de quoi que ce soit. Et pourtant, ce sont des éléments qui sont cruciaux. Parce que la première des questions, c'est de se dire comment ça se fait qu'une charpente comme ça peut brûler aussi facilement. Alors même qu'on a tous les éléments qui nous laissent penser que ça ne peut pas être ni un mégot, ni un court-circuit, ni un outil oublié. Et en plus, de surcroît, nous avons des personnes qui étaient au niveau du toit au moment où l'alarme incendie s'est déclarée et le public avait été évacué. Et l'enquête, normalement, devrait... on va dire, nous communiquer des éléments, mais il n'y a rien qui pousse les enquêteurs à le faire. En effet, le fait d'avoir évacué le public fait qu'il n'y a pas eu de bousculade au moment où l'alarme incendie a retenti, donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu aucune victime, fort heureusement, mais en même temps, s'il y avait eu un incident, très certainement que les familles auraient demandé des comptes, et là, on aurait eu des éléments.
Ah oui, parce qu'elles auraient été parties civiles, et dans ces cas-là, évidemment, il y aurait eu un motif à être informé des avancées de l'enquête, et on n'aurait pas pu tranquillement ronronner et s'endormir sur le dossier, voire le classer verticalement. Cher Régis, je rappelle votre livre Apocalypse 2026, donc un livre de Régis Emmanuel Suire, S-U-I-R-E, Suire, Régis Emmanuel Suire, Apocalypse 2026, que vous pouvez trouver sur Amazon au Book Edition. Je vous propose de faire cette très courte pause, chers auditeurs, dans le cadre de cette émission du Libre Journal de la Résistance française. Et on se retrouve tout de suite après avec les premières questions des auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, eh bien, nous sommes toujours en direct dans ce Libre Journal de la Résistance française avec l'invité du jour, Régis Emmanuel Suire, et son livre Apocalypse 2026. Le titre de cette émission est une interrogation sur une enquête qui dure depuis 7 ans et qui n'a abouti à rien, c'est-à-dire Notre-Dame en feu, l'incendie de Notre-Dame, toujours inexpliqué, qui est le thème de cette émission qui est tirée de ce livre Apocalypse 2026 de Régis Emmanuel Suire, livre de plus de 300 pages qui évoque, entre autres, l'incendie de Notre-Dame de Paris. On va venir sur d'autres sujets aussi de ce livre, Régis, si vous le voulez bien, peut-être auparavant, eh bien, poser les questions ou faire les remarques des auditeurs de Radio Courtoisie. Il y a des questions, il y a des remarques, et alors, si vous le voulez bien, eh bien, nous allons essayer d'y répondre, mon cher Régis.
Avec plaisir.
Bonsoir à tous, nous dit cet auditeur, concernant le fameux 666 cité à la toute fin du chapitre 13 de l'Apocalypse. Eh bien, d'autres manuscrits donnent 616 ou 606 ou encore 605. En revanche, ce qui est troublant, c'est que la somme de tous les nombres de la roulette, de 1 à 36, donne 666. En plus, les couleurs qui accompagnent les nombres sont le noir et le rouge, couleurs sataniques habituellement, je trouve. Douteuse, nous dit cet auditeur, l'explication rapide donnée par Macron, mais il est vrai que d'autres charpentes tout aussi antiques ont déjà brûlé, comme à la basilique de Chartres, vers 1830. Belle émission. Donc là, vous avez, mon cher Régis, plusieurs éléments. D'abord, il y a le 666, donc les autres chiffres, la roulette, le rouge et le noir, et la cathédrale de Chartres, en 1830, qui a brûlé. Vous avez, ne prenez pas trop de temps non plus pour répondre, parce que cette émission va s'arrêter dans un peu plus de 30 minutes. Ça passe à une vitesse phénoménale. On a plein de sujets à aborder, des questions sur lesquelles il nous faut nous pencher et répondre. Est-ce que vous pouvez déjà développer par rapport à ces premières observations de notre auditeur?
Une cathédrale, elle peut brûler. Maintenant, ce qu'on constate pour l'incendie de Notre-Dame, c'est que tout le monde était incompétent, finalement. Parce qu'on n'a pas parlé non plus de la personne qui était censée monitorer les alarmes et puis qui n'a pas su détecter, n'a pas su comprendre l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Et la DRAC avait divisé par deux les effectifs également, juste avant. C'est-à-dire qu'on a tout un concours de circonstances qui pointent sur la quasi-impossibilité que l'incendie se déclenche. Mais maintenant, puisque ça a déjà existé dans le passé que des cathédrales aient pu brûler, maintenant, il faut regarder finalement les signes qui gravitent autour de Notre-Dame. Et le chiffre 666 n'est pas des moindres. Clairement, quand on a Notre-Dame qui brûle 666 jours exactement après le deuxième tour des législatives du 18 juin 2017, qui a donné les pleins pouvoirs législatifs à Emmanuel Macron, la majorité absolue, où son temple de la loi s'est mis en place, il est quasiment de notre devoir de nous interpeller sur la probabilité pour que le temple de la foi, donc l'inverse du temple républicain, puisse brûler exactement 666 jours après et le mettre en parallèle avec tous les signes 666 qui gravitent autour du président. Depuis son score aux élections de 2017, jusqu'à des mesures pendant le Covid, où par deux décrets, un qui nous impose le port du masque et un autre où il nous autorise à le retirer, c'était jusqu'au dernier moment dans les transports publics, en 2022, il y a exactement 666 jours qui encadrent. Donc, l'incendie de Notre-Dame est à mettre en perspective avec tous ces chiffres. J'ai lu un commentaire, on était déjà intervenu précédemment, et un auditeur faisait remarquer que 18h18, l'horaire précis du déclenchement de l'alarme, 18, c'est 3 fois 6, 18. Donc même le déclenchement de l'alarme pointe sur une signalétique
satanique. C'est une synchronicité ou un hasard.
Exactement. Donc on se pose la question de savoir ce qui relève du hasard, de la préméditation, on ne sait pas. Par contre, quand on a une dizaine d'éléments qui pointent sur finalement la même finalité, là le hasard devient moins voilà, c'est avoir la probabilité d'autant de 666 qui gravitent autour de Notre-Dame et du président, c'est que pour moi c'est de l'ordre de l'impossible.
Donc on est sur de la synchronicité, comme un signal qui nous est envoyé aussi de faire attention de ce terrible sort que recèle le nombre 666. Un auditeur, pouvez-vous demander à votre invité s'il a pu savoir pourquoi cette réunion des monuments nationaux a eu lieu dans la tour alors qu'il y a tant d'autres salles de réunion à Paris ?
Bon,
merci
pas.
Beaucoup pour cette émission.
On ne sait pas. La page Check News de Libération est très succincte. Il dit juste que cette réunion était prévue 15 jours à l'avance, qu'ils se réunissent de temps en temps. Visiblement, c'est pour discuter de Notre-Dame. Mais pourquoi il fallait qu'il soit en présentiel et que le public soit évacué, on ne sait pas. Là encore, il nous manque l'ordre du jour. On ne sait pas de quoi, quels ont été les débats.
Un auditeur, notre cher Denis, qui pose une question qui va vous troubler, j'en suis sûr, faire une remarque et vous poser une question, cher Régis. Complotiste et complotiste ennemi, votre invité, ou un auditeur, demande Denis, sait-il de quoi est mort le 5 juin 2024, tenez-vous bien, le fondateur de l'entreprise qui a traité la charpente, Philippe Aubryat, le 5 juin 2024, à l'âge de seulement 62 ans. Mais je fantasme sans aucune preuve, moi bien courtoisement. Ça veut dire, et ça c'est une information de cet auditeur, que celui qui a traité la charpente, le membre fondateur de la famille Aubryat, Philippe Aubryat, eh bien, va mourir à seulement 62 ans, quelque temps avant l'ouverture des JO de Paris 2024, des Jeux Olympiques Paris 2024. Déjà, le saviez-vous, cela, Régis ?
Alors, je ne le savais pas. Et je note que beaucoup de personnes semblent décédées dans le contexte du chantier de reconstruction de Notre-Dame. On se souvient du général Jean-Louis Georgelin, qui a fait une glissade en randonnée et qui s'est tué. Malencontreuse, paix son âme. Et c'était également avant les cérémonies des Jeux Olympiques. Et l'une des dernières informations qu'il avait transmises au président, c'était que la flèche de Notre-Dame serait pointerait à nouveau au ciel au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il est décédé juste après. Maintenant, concernant le décès de ce chef d'entreprise, qui peut-être qu'on rendrait un peu plus complexe une enquête pour savoir un peu les circonstances autour de cette désinsectisation. Et je dirais qu'un chef d'entreprise n'est pas forcément celui qui va sur le terrain. Et de toute façon, il y a quand même des traces écrites. Le repreneur doit pouvoir transmettre des documents d'archives, des documents écrits qui retracent les faits, qui avait pris la décision. Et on devrait pouvoir... La mort de ce chef d'entreprise n'empêche en rien la transmission des documents. Je ne pense pas que toutes les archives aient brûlé dans l'entreprise au moment du décès de cet homme.
Un auditeur, pour que tout soit plus clair relativement aux souvenirs de chacun, je rappelle que l'incendie n'a pas démarré du côté des tours, donc l'électrification des cloches n'y est pour rien. Ah.
C'est ça. Voilà. L'incendie se serait déclaré à la base de la flèche, d'après des éléments sortis presque du chapeau, mais bon, on a de toute façon non seulement nous avons les médias qui nous disent ce que l'on doit penser de cet incendie, mais on a également du crédit qui est donné à des réalisateurs de cinéma, à des réalisateurs de séries télé. On se souvient, en 2022, il y avait le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, que je n'ai pas vu. Donc je ne vais pas aller critiquer sévèrement ce film, mais dans les critiques des différents internautes, la thèse du mégot serait accréditée finalement. Et on a également une série Netflix, Notre-Dame. Et toutes donnent leur version des faits. Donc on n'a absolument aucun élément qui nous permet de dire ce qui a mis le feu à la cathédrale, mais ces messieurs scénaristes et réalisateurs, ils prennent parti, eux, ils ont un point de vue, ils le disent. Donc ça participe aussi finalement à la fausse information, et n'importe quel spectateur qui va aller voir ces films ressort de la salle en se disant « bon, ah, c'est un mégot et il n'y a rien d'autre ». Donc c'est assez scandaleux en fait. Tout ce qui concerne l'incendie de Notre-Dame, qui reste inexpliqué et dont tout le monde semble se fiche royalement, et pour lequel le public ne sait rien, les enquêteurs ne nous communiquent strictement rien. Donc là, c'est tellement scandaleux que maintenant, il faut que ces enquêteurs comprennent simplement qu'ils doivent nous donner la transparence. Ils doivent nous donner des éléments de leur enquête. Parce qu'on ne sait rien, on ne sait même pas combien d'enquêteurs sont dévolus. On nous dit que l'enquête est toujours en cours. En tout cas, en 2025, l'enquête était toujours en cours. Maintenant, on est en 2026. Est-ce que c'est toujours le cas? On ne sait pas. Et combien il y a d'enquêteurs? Maintenant que la cathédrale est réouverte, je ne sais pas si il y a un enquêteur qui va plancher sur le sujet 2 heures tous les 6 mois. Je ne sais pas. Nous ne savons rien.
Régis, une question d'un autre auditeur. Comment expliquer le témoignage du maire de Paris, Hidalgo, donc notre drame de Paris, et non Notre-Dame de Paris, anciennement maire de Paris, hein, elle ne l'est plus maintenant, en tout cas elle l'était à l'époque, le 15 avril 2019, comment expliquer le témoignage du maire de Paris, Hidalgo, qui regardait Notre-Dame en feu à 18h15 alors que l'évacuation a été ordonnée à 18h40 dans la cathédrale.
Et c'est un élément si ridicule, je n'ai même pas osé le rapporter intégralement dans le livre en mettant le lien de la vidéo où on voit Anne Hidalgo donner le témoignage que c'est elle qui a prévenu les pompiers. C'est-à-dire on est là dans le niveau le plus ridicule qui soit, malgré les centaines de touristes qui sont là présents et qui voient les flammes. Et on a une vidéo qui nous explique que c'est Anne Hidalgo elle-même qui a prévenu les pompiers parce qu'elle a vu la fumée depuis sa mairie de Paris. Elle a vu la fumée s'échapper de la flèche. Et ceux qui ne sont pas parisiens ne peuvent pas le savoir, mais la cathédrale se trouve en face de la préfecture de police de Paris. Ouais. Donc là, on se fiche royalement de notre figure. D'avoir finalement un incendie complètement improbable, personne qui semble vouloir alerter les pompiers, mais heureusement nous avons Anne Hidalgo, la super-héroïne de service.
Ah bah alors là, vous y avez le droit, votre héros.
La super-héroïne de service qui a fait son travail en alertant les pompiers, qui se sont mis à l'œuvre réellement qu'à partir de 19h10. C'est-à-dire que là, on pourrait penser que c'est un coin tellement reculé qu'il leur faut beaucoup de temps pour arriver. Mmh. Manifestement, je ne sais pas où ils étaient. Alors, je ne vais pas remettre en cause l'action des pompiers, évidemment. Mais sachant que l'alarme a retenti une première fois à 18h18, même si ce n'est qu'à 18h, vers 18h40 réellement qu'il y a eu la vraie alerte, je trouve que 19h10 est un petit peu tardif.
Alors, un auditeur, question intéressante, remarque intéressante surtout. Et, quand un processus administratif prend un temps considérable, il ne peut manquer de donner lieu à des rapports d'étape, qui sont d'ailleurs indispensables pour juger des compétences des enquêteurs, lesquels doivent obligatoirement être évalués tous les ans par leurs supérieurs. 7 ans de silence, n'est-ce pas une signature de facto ? Notre-Dame, c'est le refuge suprême du peuple, le détruire, mais les humains seuls et nus, face au Moloch étatique.
C'est ça. Quiconque travaille en entreprise sait très bien la charge qui incombe au manager de remonter les informations à sa hiérarchie et d'informer tout simplement. On ne peut pas faire ce que l'on veut, et encore moins quand on travaille dans un ministère, pour un ministère, je suppose. Donc là, avoir finalement du silence total, oui, je suis d'accord avec cet auditeur, ça montre bien. C'est presque un aveu, parce que s'ils étaient à ce point incompétents à ne pas pouvoir faire des points d'étape et à faire des rapports, ils seraient limogés, je pense, ou en tout cas, on en serait informé. Là, il y a un silence délibéré.
Oui, tout à fait. Un auditeur, comment se fait-il que certaines colonnes sèches étaient percées, ne permettant pas d'acheminer l'eau dans les hauteurs du bâtiment? Les pompiers, qui doivent en principe effectuer des visites de sécurité pour les bâtiments importants placés sous leur responsabilité, ne s'en étaient-ils pas aperçus?
Ça, je
On
ne
a
sais
des
pas.
auditeurs qui s'intéressent grandement à ce sujet, en tout cas.
Ben, disons que les questions sont alimentées par le silence des autorités.
Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Régis, je rappelle et je montre en même temps, hein, ça sera pour la version que vous retrouverez sur YouTube dans quelques temps, ce livre avec la magnifique couverture, un livre de Régis Emmanuel Suire, présenté par Nicolas Stocker, qui s'intitule Apocalypse 2026, Book Edition, que vous retrouvez sur Amazon. Voilà le livre. Hop, on voit que. Évidemment, avec mon fond, hop, 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 voilà, magnifique. Régis, dites-moi, il nous reste une vingtaine de minutes pour développer de ce livre un peu les autres éléments. Vous nous avez parlé de Notre-Dame en feu, vous nous avez parlé de ce chiffre 666, vous nous avez fait un rapprochement. Vous avez commencé à nous faire un rapprochement entre l'élection législative second tour de 2017 avec le 15 janvier 2024. Et vous avez donné un exemple justement d'un rapprochement avec ce 666 qui est tout autour de Notre-Dame de Paris en feu, qui est tout autour de, d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner... je dirais un petit peu la clé d'interprétation de votre livre Apocalypse 2026. On n'hésitera pas à reposer dans les dernières minutes des questions parce que je vois qu'elles continuent à affluer dans cette émission, mais on va peut-être se concentrer là pendant un petit quart d'heure justement. Vous allez pouvoir nous faire un petit résumé succinct de votre livre. On est parti sur ce pivot du 15 avril 2019. Il nous conduit sur des dates antérieures, sur des dates postérieures avec les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, pour nous amener ensuite sur une date qui est une date prophétique, mais qui use justement de l'instrument d'analyse et du compas, si j'ose dire, du 666, pour pointer sur une date qui n'est pas encore arrivée, qui est le 23 mai 2026, dont on dira quelques mots. Mais j'aimerais que vous nous fassiez un résumé succinct de, à partir de Notre-Dame de Paris en feu, quel type d'éléments vous ont permis, par le biais de ce 666, de mettre des points de repère sur une forme de frise chronologique d'un narratif, d'un récit, qui peut aboutir à une catastrophe. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, Régis Emmanuel Suire.
Alors, Emmanuel Macron est vraiment le point de départ. Il a bien précisé que Notre-Dame était le maître étalon duquel partaient toutes les distances, que Notre-Dame, c'était notre histoire. Et ensuite, il y a eu une telle insistance sur la reconstruction de Notre-Dame. C'est un chantier qu'il s'est complètement approprié. Et j'ai trouvé suspect, finalement, la façon dont il faisait même ses allocutions autour de Notre-Dame. Et il mettait systématiquement en relation avec les Jeux Olympiques de 2024. Il fallait que Notre-Dame soit rouverte pour 2024. Et en voyant tous ces signes 666 autour d'Emmanuel Macron, et en étant choqué de voir l'écart de 666 jours entre le deuxième tour des législatives du 18 juin 2017 et le 15 avril 2019, finalement, c'est Emmanuel Macron sur lequel j'ai porté mon attention et remonté à la surface tous ses discours sur Jupiter. On se souvient de Bruno Le Maire qui disait à un Economic Club de New York, c'est le nom original, hein, Emmanuel Macron est Jupiter. Il disait ça devant tout le parterre qui était présent, les médias qui l'appelaient Jupiter. Et également, cette insistance autour des Jeux Olympiques. Et de... Il y avait systématiquement le parallèle entre Jeux Olympiques et Notre-Dame.
Ah oui.
Avant même qu'il y ait finalement l'annonce assez exceptionnelle et inédite d'une cérémonie d'ouverture qui se passerait pour la première fois au centre de la ville et non pas dans un stade, avant même cette annonce, la corrélation entre Notre-Dame et les Jeux Olympiques était si présente que j'avais émis la très forte probabilité que la cérémonie ait lieu en plein cœur de Paris. Pensais-je à l'époque au pied de Notre-Dame, avec Emmanuel Macron déclarant l'ouverture des JO sur le parvis de Notre-Dame réouverte. Et on était en 2021. Finalement, en décembre 2021, ça s'est confirmé que la cérémonie se tiendrait sur l'eau. Et alors, le calendrier, il peut se tordre. Nous ne sommes pas dans leur petit papier pour savoir les différents projets. Donc, la cathédrale a rouverte en décembre 2024. Et Emmanuel Macron n'a pas fait la cérémonie d'ouverture au pied de Notre-Dame. Néanmoins, du fait de cette insistance sur les Jeux Olympiques et avoir mis en évidence le chiffre 666 en lien avec l'incendie de Notre-Dame et également une forme de développement apocalyptique qui était en cours et qui était également visible sur l'ensemble de la planète, hein, que ce soit par le Covid, que ce soit par la guerre en Ukraine. Il y avait comme un narratif apocalyptique en cours. Et donc j'avais anticipé finalement une cérémonie des Jeux Olympiques, disons, d'ordre satanique. Mmh. Et j'essayais d'alerter finalement différentes personnes de la possibilité que l'on soit face à une sorte de rituel, mis en place par des élites. Donc là, on se base sur un incendie de Notre-Dame qui serait d'un aspect criminel, avec des rituels tournant autour de la figure de Jupiter, tournant autour du 666, avec également, jusqu'en 2024, des rappels dans le calendrier avec l'incendie de Notre-Dame, la flamme de le flambeau olympique à Olympie en Grèce s'est allumé le 16 avril 2024, c'est-à-dire 5 ans et un jour, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame, en sachant que la cathédrale était fermée pour 5 ans, pour faire écho à un mandat électoral qui dure 5 ans généralement. Et le même jour, le 16 avril 2024, où la flamme olympique s'allumait à Olympie, on avait la flèche de la bourse de Copenhague qui s'effondrait dans les flammes, avec les journalistes disant « cela nous rappelle l'incendie de Notre-Dame ». Donc on avait un relais narratif dans les médias où tout pointait finalement sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Et là où j'ai été assez choqué, c'est que cette cérémonie satanique a exposé une imagerie de mort, une imagerie de destruction de la nation française, une imagerie antichristique, voire luciférienne. On se souvient de ce cavalier courant sur la Seine, mais il n'y a pas que ça, il y avait beaucoup d'autres choses. Et se concluant par une vasque olympique qui est finalement un énorme ballon enflammé, jaune, qui s'élève au-dessus de la capitale. Et là où j'ai été choqué, c'est que, selon moi, cette vasque olympique ressemble à une représentation symbolique de bombe atomique. Et ça m'a interpellé, car quand je recherchais les signes sur Emmanuel Macron, j'avais vu une vidéo sur l'apocalypse, pour essayer de comprendre le chiffre 666 et ce qu'en pensaient les experts. Et dans cette vidéo, qui date de 2006, qui dure à peu près une heure de temps, est diffusée mondialement par le National Geographic Channel, donc on parle de plus d'une 150aine de pays, nous avons la vision de l'apocalypse décrite par des experts. Ils nous expliquent comment l'apocalypse va survenir, ils nous montrent les quatre cavaliers de l'apocalypse, et on nous présente l'antéchrist. On nous dit que les quatre cavaliers accompagnent celui qui porte la bête en lui, c'est l'antéchrist. Et il a un chiffre, et son chiffre, il a le 666 avec lui. Et c'est un documentaire qui est tourné donc, avec des acteurs qui jouent les personnages. Et l'acteur choisi pour représenter l'antéchrist dans cette vidéo, L'acteur joue le rôle d'un politicien, donc on le voit dans la vidéo, donc il est contemporain avec notre époque. On a d'ailleurs les experts dans cette vidéo qui nous expliquent que l'Antéchrist est déjà parmi nous, et ils nous expliquent également que le Messie attendu par les Juifs arrivera pendant la génération qui a connu le retour des Juifs sur la terre d'Israël. Et pendant qu'il nous explique tout ça, cet acteur qui joue l'Antéchrist et qui a le 666 en lui, il ressemble à Emmanuel Macron.
Alors je confirme, hein, là on ne peut pas vous montrer, on est à la radio d'images, hein, sans oublier qu'en plus ce sont des images d'archives de l'INA, donc on peut encore moins vous les montrer, de National Geographic, mais en tout cas vous pouvez aller vous y rendre. Alors ce livre, hein, je le rappelle, ce livre de Régis Emmanuel Sûr, Apocalypse 2026, fourmille, plus de 300 pages, et encore c'est crypti, hein, de notes de bas de page, je dirais de liens hypertextes qui sont proposés, il y a de quoi en faire un livre de chevet pour un moment et aller faire des recherches et un travail justement sur Internet. Vous pouvez, tout ce qui est cité dans ce livre, vous le retrouvez avec le lien hypertexte justement, ça, il n'y a pas de problème, sachant qu'il existe aussi une version Kindle, moins chère, de ce livre, Apocalypse 2026, de Régis Emmanuel Suire, et que vous pouvez vous procurer aussi. Donc, voilà, en tout cas, moi je confirme qu'il a la tête, dans ce document, ce démon politicien d'Emmanuel Macron. Mais bon, ça, encore une fois, c'est peut-être totalement fortuit. Enfin, vous avez, il faut avancer un petit peu, Régis, donc vous avez compté, vous avez arpenté, hein, mais c'est le temps que vous avez arpenté, et vous avez compté 666 en nombre de jours. Et vous êtes aperçu donc qu'il y avait 666 jours entre les pleins pouvoirs de Macron à l'Assemblée nationale, une sorte de temple du citoyen, temple républicain, temple lié justement à la République et peut-être à la franc-maçonnerie, victoire totale, et entre cette date, quelle est la date exactement, rappelez-moi, la date précise de cette victoire totale de Macron le soir du second tour des élections législatives en 2017 ?
18 juin 2017. Le 18 juin.
18 juin, donc comme l'appel d'ailleurs du 18 juin. Donc dimanche 18 juin 2017, et vous comptez 666 jours après, et vous tombez sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est bien ça, Régis, vous êtes d'accord jusque-là ?
Et c'est factuel, il ne faut pas essayer de tordre les dates en prenant l'élection de Macron devant sa pyramide du Louvre. Non, non, il faut prendre les pleins pouvoirs, ce qui lui a vraiment donné la majorité absolue. On se souvient de présidents qui ont pu être élus, mais ils n'avaient pas la majorité. Ensuite, il y a eu la cohabitation. On n'est pas dans ce cas de figure avec Jupiter qui doit avoir les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs de Jupiter donnent la destruction du temple de la foi 666 jours après. Et parce qu'il est important de le préciser dans cette vidéo de l'Apocalypse du National Geographic Channel où on voit un acteur qui joue un politicien qui provoque l'Armageddon sur Terre, c'est comme ça qu'on nous le présente, et qui est l'Antéchrist, à 6 reprises dans cette vidéo, on voit Paris être détruite par une bombe atomique.
Voilà.
Et c'est en 2021, là où j'ai pris connaissance de cette vidéo, où je me suis posé la question de savoir si cette vidéo était finalement venait d'une synchronicité, 20 ans plus tôt, une quinzaine d'années plus tôt à l'époque, ou est-ce qu'il s'agissait d'un message et de quelque chose de prédestiné, en sachant que Emmanuel Macron a été catapulté à la tête, au sommet du pouvoir, et qu'il vient de nulle part, et que probablement aux alentours des années 2000, il était déjà prévu qu'il puisse accéder aux plus hautes fonctions. Donc, en voyant cette vidéo, en 2021, je me suis dit, aïe, nous avons une situation, si vraiment nous avons les quatre cavaliers qui se déploient entre la peste et on a le Covid, la guerre et on aura l'Ukraine, et ensuite la famine et le dernier cavalier, la mort. Dans cette vidéo du National Geographic Channel, les experts nous expliquent que l'apocalypse dure 7 ans. Et en 2021, cela m'a permis de comprendre que 2026 pouvait réellement représenter l'année de l'arrivée du cavalier de la mort. Donc la question était de savoir la date précisément. Mais quand on a vu pour les cérémonies olympiques le lien avec l'incendie de Notre-Dame, Et le contenu des cérémonies avec un cavalier de la mort qui court sur la scène, avec un marchant sur l'eau comme le Christ, avec tout ce discours messianique, mais inversé. C'est-à-dire là, on avait clairement une représentation luciférienne dans les cérémonies que j'explique sur de longs chapitres dans le livre. Il se posait la question de savoir si ce n'était pas finalement le miroir inversé du pouvoir spirituel de Jupiter, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui règne sur le mont Olympe, c'est lui qui est Zeus, le nom grec du dieu Jupiter, qui est le nom romain, et c'était finalement 2024, son année jupitérienne, et je collecte dans le livre absolument tous les détails et tous les éléments qui montrent qu'il y a effectivement un aspect antéchristique derrière Emmanuel Macron, jusque dans les moindres détails. Comme par exemple le nom de son chien à l'Élysée, qui s'appelle Nemo, et quand on connaît, on va dire, l'inversion satanique avec les lettres que l'on doit lire à l'envers, Nemo donne Omen, Omen étant le titre anglais du film Damien la malédiction, sorti en 76, l'année où Emmanuel Macron a été conçu.
Bien. On ne peut pas trop rentrer dans les détails, Régis. On risque de perdre en plus l'auditeur et qui se doit d'acheter le livre si ça l'intéresse. Moi, je veux juste revenir sur un autre décompte maintenant. Et il faut se dépêcher puisqu'il ne reste plus que 5 minutes d'émission. C'est se dire, eh bien, il y a, de même qu'il... Il y a dans ces 666 finalement une inversion entre une scène de réussite, de liesse et la victoire politique à l'Assemblée du peuple, au temple, dans le temple républicain, et puis une scène de désolation 666 jours après, de destruction du temple de la foi de Notre-Dame de Paris. Peut-on retrouver comme en miroir un équivalent Eh bien, quelques années après. C'est ce pari que vous faites, Régis, en débutant un nouveau décompte de 666 jours qui débute le jour de l'ouverture des JO par sa cérémonie satanique, diabolique, scène de liesse à nouveau, comme fut la victoire définitive de Macron en 2017. Macron qui est au centre de ces cérémonies, c'est l'année Macron 2024. Cette cérémonie, c'est la cérémonie du couple Brigitte et Emmanuel Macron. Donnez-moi la date précise de ce refait. On recommence comme avec l'élection législative. Redonnez-moi la date précise de la cérémonie d'ouverture des JO, s'il vous plaît.
La victoire spirituelle d'Emmanuel Macron a eu lieu à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024.
26 juillet 2024. Eh bien, nous allons compter 666 jours après le 26 juillet 2024, dites-nous, Régis, à quelle date tombe cette date, justement, tant attendue.
666 jours après le 26 juillet 2024 tombe précisément le samedi 23 mai 2026, le week-end de la Pentecôte.
De la Pentecôte. Donc, Pentecôte, ou d'ailleurs... Une cérémonie au niveau de Notre-Dame est prévue, hein, ça boucle la boucle avec les nouveaux vitraux de Claire Tabouret. D'ailleurs, ça y est, une autorisation de travaux a été déposée hier, j'en parlerai encore prochainement, dans une revue de presse, pour changer justement, retirer les grisailles de Viollet-le-Duc, alors qu'elles avaient échappé justement à la destruction du feu de Notre-Dame, pour y les remplacer par des vitraux de Claire Tabouret, occultiste bien connue, justement sur cette allée du Saint-Esprit, dont on sait qu'il est au cœur du mystère de la Pentecôte.
Exactement. C'est le souffle qui descend sur les fidèles. Donc on se pose la question de savoir si la fête du 26 juillet 2026 ne va pas amener le souffle de la désolation, le souffle du feu qui tombe sur la ville entière de Paris, puisque c'était la ville entière qui était en fête en 2024 et qui pourrait finalement, dans une situation d'ordre inversé et satanique, se retrouver dans le feu littéral de la destruction par l'usage d'une arme atomique. C'est ce qui nous est montré dans la vidéo du National Geographic Channel avec le sosie d'Emmanuel Macron qui fait exploser Paris 6 fois à l'image, mais également dans toute l'imagerie véhiculée dans la cérémonie elle-même avec cette vasque olympique qui s'élève au-dessus de la capitale alors qu'on a eu pendant toute la cérémonie des représentations de mort du début à la fin.
Alors d'ailleurs, on a un auditeur, je vous le donne tout de suite, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'allumage de la vasque olympique de Cortina montre des flammes dessinant un pentagramme inversé, signe satanique très explicite. Vous aviez vu ce pentagramme inversé, Régis ?
Pas du tout. Ça, je serais intéressé de voir l'image ou que cet auditeur peut-être nous
dise
comment la retrouver.
Je vous enverrai le contact de cet auditeur qui sera certainement très heureux de pouvoir échanger avec vous. Il y a donc bien une relation entre l'olympisme actuel et le satanisme. Jupiter est le nom aussi de l'abri antiatomique sous l'Élysée, ça vous le savez bien, Régis. C'est tout de même du lourd, cette symbolique, nous dit l'auditeur, en effet. On est bien d'accord. Je donne tout de suite droit, avant de conclure, on n'aura même pas une minute, mon pauvre Régis, mais en tout cas, on a fait une belle émission. Un auditeur, bonjour. Un ancien de la préfecture de police très croyant m'a dit au lendemain de l'incendie de Notre-Dame que cet incendie était volontaire. Peut-on le croire ? Je pense, oui. On peut le croire. Et un autre auditeur, une question un peu accessoire, je m'en excuse, mais je pense votre invité durant... Qu'est-ce que pense votre invité du rendu de la basilique après les travaux, un vaste musée où circule du touriste en tous sens, un hall de gare, mais certainement plus un lieu de prière. Suis-je trop sévère ? Non, vous avez répondu, cher auditeur. C'est tout à fait le descriptif que vous en faites. Il va être le temps de se quitter, mon cher Régis, le temps de rappeler cet ouvrage que je conseille vivement, vivement à nos auditeurs. Apocalypse 2026, un livre de Régis Emmanuel Suire que vous pouvez trouver sur Amazon au Book Edition. Cette émission se termine, Régis. Merci beaucoup d'avoir participé pendant 1h30 à cette émission. Si vous voulez en savoir plus et si vous êtes resté sur votre faim, c'est tant mieux. Il faut se procurer ce livre, Apocalypse 2026. Merci, Régis.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci aux auditeurs.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 22 avril 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.